Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'ouvrir les troisième jours de ces colloques qui jusqu'au présent étaient vraiment riches, magnifiques. Et vous savez mieux que moi tout ce qu'on a bien pu apprécier dans ces rencontres. Alors, je passe la parole à M. Lassus qui est il se présente de lui-même parce que nous connaissons tous la dynamique et les travaux que M. Lassus fait au centre de CRENI et aussi de l'Institut des Amériques. Oui, je pense que M. Lassus dispense une présentation plus grande que ça parce qu'on connaît tous son travail.
Merci beaucoup, Hervé. Merci, bonjour à tous. Voilà, donc je voulais donc aujourd'hui proposer une réflexion sur les résonances et la réception de... On m'entend ? Oui, ça va, vous entendez ? Oui. De Garcia Lorca en Amérique latine. Alors, c'est un vaste sujet qui mériterait, enfin, qui est digne de recherche très ample. Oui, vous m'entendez ? Non ? Oui. Voilà, qui nécessiterait une approche très, très fouillée. Là, je vais m'arrêter, je vais proposer une ou deux hypothèses de travail, après avoir rappelé un petit peu l'historique de ces contacts de Lorca avec l'Amérique latine. Je disais à Hurley tout de suite en m'excusant parce que je ne vais pas évoquer le Brésil, mais je vais me cantonner un petit peu sur l'Amérique latine. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint et en le préparant, je ne savais pas que la première image allait être d'actualité, car vous avez appris aujourd'hui le décès de Fidel Castro, qui va donc... sûrement encore beaucoup faire parler. Voilà, donc j'en viens, si vous voulez, à mon sujet. Donc, en commençant par dire que diverses manifestations artistiques autour de l'homme et de son œuvre témoignent aujourd'hui de la présence de Lorca en Amérique latine. Comme par exemple l'hommage rendu au poète le 18 août dernier à Montevideo à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. On y évoquait à cette occasion les répercussions de son séjour dans la capitale uruguayenne en 1934 et sa collaboration avec l'actrice Margarita Hilbu, fondatrice de l'école municipale d'art dramatique à Montevideo. Les deux images les plus fréquemment associées à Lorca se trouvent à nouveau réunies dans la formulation de cet hommage, rendu, je cite, « à l'occasion de l'anniversaire de sa mort ». Une mort qui a eu de telles répercussions qu'elle est désormais indissociable de la notion de poète martyr, et qui a aussi aujourd'hui des résonances dans l'actualité, car cela a été rappelé au cours des journées précédentes. Vous savez que des récentes recherches sur les conditions précises de son exécution ont encore réactivé cette dimension au sein même de l'Amérique latine, puisqu'une enquête a été menée récemment en Argentine par un juge Maria Salvini, sollicité par l'association espagnole pour la récupération de la mémoire, après que le juge Baltasar Garzón ait été, disons, dessaisi du dossier. Et cette démarche, d'ailleurs, faisait écho à un document de 1965 qui serait resté caché pendant des décennies aux archives du ministère de l'Intérieur et dans lequel, selon Emilio Silva, président de cette association, je cite, « pour la première fois, l'État franquiste reconnaissait l'assassinat de Lorca ». Fin de citation. L'histoire des relations entre Lorca et l'Amérique latine et de la réception de son œuvre est un objet de recherche considérable. Nous en évoquerons ici quelques aspects particuliers. Et depuis la dimension symbolique de son assassinat et sa coïncidence avec le déclenchement de la guerre civile espagnole, jusqu'aux versions les plus iconoclastes de sa vie et de son œuvre, comme celle que rédigera en 1998 l'écrivain mexicain José Emilio Pacheco, qui est un texte sur lequel je reviendrai. Pacheco, doublement distingué, comme vous le savez, par le prix Garcia Lorca en 2005 et le prix Cervantes en 2009. Ma réflexion va donc s'orienter sur qu'est-ce qui aujourd'hui a constitué un petit peu, disons, appelons-le comme ça, le mythe de Lorca, et qu'est-ce qui, à un moment donné, comment on a vu surgir des voix contre ce mythe, je pense à Borges notamment, et comment aujourd'hui de grands écrivains comme Pacheco réécrivent par exemple une biographie fictionnelle de Lorca et qu'est-ce que ça peut signifier. Donc, pour revenir chronologiquement, si vous voulez, à cette, au début de mon exposé, Lorca et l'Amérique latine, que je titulerai l'histoire d'une passion. On rappellera donc que l'assassinat de Lorca dès le début de la guerre civile par les forces franquistes a eu des répercussions considérables en Amérique latine. Pour des artistes et écrivains qui, souvent, avaient déjà fait chez eux la douloureuse expérience de la tyrannie et qui avaient célébré avec enthousiasme l'avènement de la République espagnole. Cet événement, donc, était chargé d'un sens tragique et prémonitoire à plus d'un titre. Dès lors, l'engagement de ces écrivains latino-américains auprès de la République, au-delà même des enjeux immédiats du conflit, allait signifier beaucoup. Allait signifier la défense de l'homme en général, des droits de l'homme, de la culture dans son universalité, mais entraîner aussi un renouvellement de leur écriture poétique. Je pense à Neruda, à Guillén notamment. Je crois que c'est là. Les recueils de poèmes de Pablo Neruda, L'Espagne au cœur, 1937, Nicolas Guillén, à Cuba, Espagne, poème en quatre angoisses et une espérance, et César Vallejo, Espagne, écarte de moi ce calice, écrit en 37 et publié après sa mort en 39, ont ainsi témoigné à des degrés divers du bouleversement que ces deux événements, la guerre civile espagnole et l'exécution de Lorca, signifiaient pour eux. Tragédie d'autant plus forte qu'ils avaient lié amitié avec le poète. Voici donc volontairement, n'est-ce pas, deux ouvrages, dont un en anglais et l'autre en espagnol. Le titre de Neruda étant sous-titré « Hymne à la gloire du peuple en guerre ». Neruda, qui des trois poètes, était certainement le plus proche de Lorca. Guillén à Cuba donc écrit ce court texte magnifique avec un hommage à Lorca sur lequel on reviendra, poème en quatre angoisses et une espérance. En Amérique latine, ces événements ne tarderaient pas à générer de nouvelles représentations de l'Espagne. Et c'est aussi ce qu'il faut, sur quoi je voudrais insister. Claude Fell l'a fait magnifiquement dans des articles. D'autres également, d'autres collègues prestigieux ont déjà abordé cette question-là, que je voudrais un petit peu résumer. En Amérique latine, donc, ces événements ne tarderaient pas à générer de nouvelles représentations de l'Espagne, parce que après un 19e siècle marqué par les luttes pour l'indépendance, le rejet de la colonisation espagnole, la guerre civile allait signifier un retour à, je cite, l'Espagne mère, la mère Espagne, la madre Espagne. La poésie de Lorca et Lorca lui-même, alors surtout célébré en Amérique latine pour son recueil le plus connu, Romancero Gitano, allait également renouveler l'image que les pays latino-américains avaient de l'Espagne. Ce phénomène doit beaucoup au voyage de Lorca en Amérique, Lorca lui-même en Amérique latine, à ses échanges avec les intellectuels et artistes les plus représentatifs de ces années, disons qui s'étendent de 1929 à 1934 pour ces jours les plus aboutis, je dirais. Où Lorca brille dans ses conférences, dirige des pièces de théâtre, le succès de Bodas de Sangre à Buenos Aires est considérable, il y séjournera 6 mois après avoir été invité et il dirigera à nouveau son théâtre là. Mais Lorca, c'est le poète, le dramaturge, le musicien, on y reviendra, le dessinateur. Et on peut dire qu'il y a deux temps importants, n'est-ce pas? Bien sûr, poète à New York, qui va être déterminant, on en a parlé dans des autres journées, donc bien sûr, je n'y reviendrai pas. Mais après poète à New York, c'est le voyage à Cuba. Et plus tard l'Uruguay, l'Argentine. Donc on pourrait dire que à Cuba en mars, de mars à juin dans les années 1930, en Argentine octobre 33, mars 34 et en Uruguay janvier février 34, là des choses très importantes sont en train de se passer avec la présence même de Lorca. L'Amérique ouvre à Lorca de nouveaux horizons poétiques, comme l'avait déjà montré poète à New York entre 1929-1930, alors qu'il découvrait une Amérique du Nord fascinante et inquiétante à la fois, et donc ceci avant d'entrer en contact avec la Havane, avec Cuba, et où là il va y avoir d'autres révélations. J'avais oublié de montrer, alors j'ai oublié de dire que César Vallejo n'a pas, à ma connaissance, dédié de poème à Lorca comme l'ont fait les deux autres écrivains, mais il en était proche et on connaît bien sûr l'engagement de Vallejo auprès de la République espagnole. Donc Cuba, où Lorca a, certains l'ont dit, mais je reprendrai volontiers le terme, une révélation de la culture, de la musique cubaine, où il rencontre, il échange avec de nombreux artistes et intellectuels, tandis qu'à Buenos Aires, où il sera présent avec Margarita Xirgu pour une série de représentations triomphales de Noces de sang, par exemple. Bref, on a ici tout un temps vraiment fort avec la présence de Lorca en Amérique latine. Ce voyage, j'y reviendrai tout à l'heure, sera le dernier entrepris avant la guerre civile et son exécution. Je citerai Carlos Monsiváis, qui est un essayiste distingué qui nous a quitté il y a 3 ans, me semble-t-il, un très grand essayiste et écrivain mexicain, et qui pour moi résume le mieux l'impact de Lorca en Amérique latine dans un texte qu'il consacre à la réception de Lorca au Mexique. Alors, j'ai prévu, vous verrez des textes en espagnol et en traduction bilingue, j'ai peu le temps de tous les traduire, mais je vous lis ce que dit ici Monsiváis, je crois qu'on est entre hispanistes distingués, sinon je peux bien sûr traduire à la demande. Voici ce que dit Monsiváis. Son enormes las resonancias en América Latina del fusilamiento de Lorca, y no solo en medios culturales, pas seulement dans les milieux culturels. Pese al significativo número que apoya psicológicamente a las fuerzas franquistas, en México la mayoría está con la República y segunda los esfuerzos del presidente Lázaro Cárdenas, que commençait a accueillir, n'est-ce pas, bras ouverts les républicains espagnols exilés de la guerre civile. Más que ningún otro hecho individual, el asesinato de Lorca conmueve y es factor decisivo en la toma de posición moral que será alternativa estética. Alternativa estética. De pronto, su poesía, que era solo conocida por un cenáculo, se difunde enormemente y su teatro se representa por doquier. Es el mártir de la República al que le cantan poetas democráticos y poetas comunistas. Fin de citation. Les trois poètes, je le disais, latino-américains cités plus haut, ont tous connu Lorca à des degrés divers. Si Vallejo ne semble pas lui avoir vraiment consacré de texte, il n'en va pas de même pour Guillén et Neruda, le premier lui dédiant un texte, comme je le disais, qui s'intitule « Moment de García Lorca », publié dans son ouvrage que je citais tout à l'heure. Soñaba Federico Hernando y Serra y Aceituna y Clavel y Luna Fría, Federico Granada y Primavera. En afilada soledad dormía al pie de sus ambiguos limoneros, echado musical junto a la villa. Alta la noche, ardiente de luce, arrastraba su cola transparente por todos los caminos carreteros. Federico, gritaron de repente con las manos inmóviles, atadas, gitanos que pasaban lentamente. Qué voz la de sus venas desangradas, qué ardor el de sus cuerpos ateridos que suaves sus pisadas. Iban verdes, recién anochecidos, en el duro campo invertebrado, caminaban descalzos los sentidos. Alzóse Federico en luz bañado, Federico Granada y Primavera, y con luna y clavel y nardo y cera lo siguió por el monte perfumado. Le poème continue, je ne l'ai pas cité ici en entier, mais on voit notamment à travers ce poème, évidemment, Grenade, des allusions au Romanzo, Ritano, mais pas seulement, j'y reviendrai tout à l'heure. L'amitié beaucoup plus étroite qui a lié, très étroite, qui a lié Neruda à Lorca, bien sûr, doit être mentionnée. Elle a dû donner lieu à de nombreux hommages, commentaires. Parmi les principaux textes que Neruda consacre à son ami, on rappellera l'ode à Federico Garcia Lorca, dont voici un extrait, présent dans Segunda Residencia en la Tierra. Ode prémonitoire, quelque part, qui célèbre la poésie de Lorca et qui dit que le poète restera vivant par-delà la mort, quoi qu'il arrive, tandis que sa présence, on le voit dans ses vers, semble transformer tout l'univers. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, et puis le deuxième strophe sur lequel on a beaucoup interrogé Neruda, porque por ti pintan de azul los hospitales y crecen las escuelas y los barrios marítimos, y se pueblan de plumas los ángeles heridos y se cubren de escamas los pescados nupciales y van volando al cielo los erizos. Por ti las sastrerías con sus negras membranas se llenan de cucharas y de sangre y tragan cintas rojas y se matan a besos y se visten de blanco. Dans laquelle, je disais, enfin, tout l'univers semble transformé ici par la présence de Lorca et dans une présence, je dirais, lumineuse, quelque part. On peut, d'autre part, et d'autres l'ont fait, n'est-ce pas, bien entendu, s'interroger sur la façon dont Pablo Neruda percevait Garcia Lorca de 1934 à 1936, à la veille de sa mort, mais aussi sur le souvenir que le poète chilien en avait gardé des années plus tard en rédigeant ses mémoires, j'avoue que j'ai vécu, en 1974. Victor Raviola Molina, entre autres, observe que l'un des souvenirs probablement les plus forts de Neruda sur Lorca figure dans le chapitre de ses mémoires intitulé « El crimen fue en Granada ». Le crime eut lieu à Grenade, et dont le titre est un écho du célèbre poème d'un Machado écrit en hommage à Lorca dans ses Poesías de la Guerra. Et on va voir que peu à peu, effectivement, il y a toute une chaîne intertextuelle qui se déroule autour de Lorca. Il y a une création d'un poète à l'autre, on va y venir. Dans cet épisode, dans ce passage de « J'avoue que j'ai vécu », Neruda raconte le rêve prémonitoire de Lorca, annonciateur symbolique de sa mort tragique, quand il s'était arrêté la nuit avec la barraca dans un coin reculé de Castille. Et là, il dit qu'en proie à des insomnies, donc Lorca s'était levé, s'était promené dans la campagne, mais il avait rêvé également, que des cochons sauvages s'étaient jetés sur un agneau pour le mettre en pièces. Et que cette image avait été, pour Neruda, fulgurante et prémonitoire de ce qui allait se passer. Effrayé par la dimension symbolique de ce rêve, annonciateur de la mort de son ami quelques mois avant son exécution, Neruda conclut le passage de ses mémoires en faisant le lien entre Lorca et l'Espagne. Dit-il, yo vi después con mayor y mayor claridad que aquel suceso fue la representación anticipada de su muerte, la premonición de su tragedia. Federico García Lorca no fue fusilado, fue asesinado. De todos los poetas de España era el más amado, el más querido y el más semejante a un niño por su maravillosa alegría. ¿Quién pudiera creer que hubiera sobre la tierra y sobre su tierra monstruos capaces de un crimen tan inexplicable? La incidencia de aquel crimen fue para mí, dice Neruda, la más dolorosa de una larga lucha. Lorca, bien évidemment, sera présent dans le recueil de poèmes que Neruda consacrera à la guerre civile, que je citais tout à l'heure, l'Espagne au cœur, et notamment avec ce poème très connu, Explico algunas cosas. où Neruda se remémore les instants de paix dans son quartier de Madrid avant l'éclatement du conflit, et où on le voit ici, il nomme Lorca. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde ahí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Debajo de la tierra. Évocation de moments de paix, de félicité de Neruda dans ce quartier populaire de Madrid, hein, du Parc du Marché, etc., avant l'éclatement de la guerre civile. Alors, je ne l'ai pas cité ici, mais bien sûr, la mention Federico, te acuerdas debajo de la tierra, te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca, hermano, hermano. Et, il y a un leitmotiv dans ce poème, c'est vous vous demanderez pourquoi ma poésie ne parle pas de fleurs, de rêves, etc. Venez voir le sang dans les rues et vous comprendrez. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Neruda, ces poètes vont avec la guerre civile, avec Lorca, donner un virage considérable à leur poésie. Neruda, qui dans Residencia de la Tierra écrit une poésie parfois qualifiée d'un petit peu métaphysique, un petit peu, je ne veux pas entrer dans des étiquettes parfois douteuses, mais là on entre vraiment dans le social, dans le combat, je dirais, social. En écho à ce texte, Alberti rendra hommage à son tour à Neruda, pratiquement dans les mêmes termes, mais en faisant allusion cette fois à la mort suspecte de Neruda lors du coup d'État de Pinochet et à sa destruction de sa maison de l'île Noire. C'est un poème peu connu d'Alberti, connu mais pas vraiment diffusé, qu'il écrit à Rome en 1973 au moment du coup d'État, et dans lequel, qu'il appelle « Con Pablo Neruda en el corazón », avec Pablo Neruda au cœur, et dans lequel, n'est-ce pas, il reprend Venid a ver ahora su casa violada, sus puertas y cristales destrozados, venid a ver sus libros y a cenizas, a ver sus colecciones reducidas al polvo, venid a ver su cuerpo allí caído, su inmenso corazón ahí volcado sobre la escoria de sus sueños rotos, mientras sigue corriendo la sangre por las calles. C'est un lien évident entre les deux dictatures les plus atroces et les plus féroces, qui entraînent la mort de poètes. Alors il y a aussi des enquêtes, hein. Neruda a-t-il été assassiné, empoisonné, voilà. Donc je le disais, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce travail de recherche, il semble se créer une chaîne d'images qui sont reprises d'un endroit à l'autre. Et puis il y a aussi le moment où en Amérique latine, peut-être que le poids du mythe commence à agacer. Mais toujours est-il qu'à la fin des années 30, Neruda et Lorca sont les deux poètes les plus lus, les plus imités, et que cette double influence allait se faire sentir dans toute l'Amérique latine jusqu'à susciter parfois un certain agacement. Juan Carlos Onetti va écrire dans le journal Marcha en Uruguay sous le pseudonyme de Periquito Aguador. Il a regretté, par exemple, Onetti, qu'avec Neruda et Lorca, une nouvelle rhétorique ait influencé des poètes de toutes tendances. Comme s'il y avait un poids des deux poètes, n'est-ce pas, qui suscitait une certaine imitation, parfois stérile. Au cours des années de la guerre civile, la poésie de Lorca devait inspirer des imitateurs. Et on peut citer bien sûr Nicanor Parra au Chili, hein, qui allait être plus tard un des grands héritiers de la génération de 1927, qui n'y en a évidemment rien à la dimension exceptionnelle de la poésie de Nicanor Parra. Mais c'est sans doute à Borges que l'on doit la réaction la plus violente. J'ai ici, voyez ce que dit Borges, je crois qu'il y a là une violence inouïe. Pas le lieu, je pense, de dire quoi que ce soit sur Borges. Chacun verra et le fera à sa façon. Et, immense écrivain, mais on pourrait rappeler certaines choses qu'on veut. Bon, rappeler par exemple une décoration reçue des mains de Pinochet, bon, acceptée par Borges. Est-ce que pour autant il faut condamner Borges ? Non, mais toujours est-il qu'il accepte, n'est-ce pas, cette bon. Hormis donc ce cas extrême et fort regrettable, parce que quand même on est en présence de géants, hein, de la littérature, hein, il est intéressant de remarquer que ce rejet circonstanciel de Lorca s'est accompagné aussi d'une réinterprétation du mythe à travers d'autres cas, d'autres publications. Dans un numéro de septembre 1961, la Revista de l'Universidad de México, qui recueillait des collaborations de García Márquez, Ernesto Cardenal, Augusto Rabastos ou Jorge Ibargüengoitia, avait dédié à Lorca une section intitulée « Simpatías y diferencias », où figure un texte d'un jeune auteur qui signait alors J.E.P., qui n'était autre que José Emilio Pacheco. Alors, très intéressant, parce que ce texte, qui a été reproduit par la revue Proceso du 28 août 1986, commence, comme dans un roman, par imaginer les derniers instants de Lorca avant d'aborder la réception de son œuvre au Mexique, mêlant ainsi fiction et recherche. Pacheco regrette qu'un certain mythe qui s'était créé autour de la personne de Lorca ait fait obstacle à l'importance de l'œuvre elle-même. La dimension mythique de sa mort et une certaine, entre guillemets, touche exotique, pour ceux qui le lisent mal, bien entendu, de ses écrits quand ils sont considérés superficiellement et de l'extérieur, aurait ainsi concentré l'attention sur l'homme plus que sur une œuvre qui est une des plus extraordinaires, dit Pacheco, et des plus traduites et commentées au monde. Et puis, il y a un autre texte que rédige José Emilio Pacheco plus tard, en 1998. Je rappelle qu'il a été distingué par le prix García Lorca, le prix Cervantes. Donc, il n'est pas soupçonnable dans ce texte, n'est-ce pas, d'attaquer en quoi que ce soit Lorca, bien entendu. Ce texte, qui s'appelle aussi García Lorca en México, et on peut penser que dans la chaîne intertextuelle, c'est aussi un clin d'œil au texte de Monsiváis, qui s'intitule également García Lorca en México, mais dans lequel Monsiváis va faire un travail considérable en rappelant les liens de Lorca avec Salvador Novo, et j'y reviendrai tout à l'heure. Un élément extrêmement important, c'est que Lorca, il y a parfois, comme dirait Vallejo, hay golpes del destino, et donc qui fait que Lorca rentre en Espagne alors qu'il est invité au Mexique, et que peut-être que s'il était allé au Mexique, même sûrement, il aurait échappé à son destin. Donc là, que fait Pacheco? Il imagine une biographie qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on raconte sur Lorca. Alors, je vais en citer quelques passages. On apprend dans cette biographie que Lorca ne serait pas mort à Grenade, mais dans le modeste appartement qu'il louait dans la rue Ignacio Mariscal à Mexico, près du monument à la Révolution. La suite de l'essai donne libre cours à un imaginaire foisonnant qui précise que peu de personnes assistèrent à son enterrement au cimetière espagnol de Mexico, où Max Aub et Juan Rejano lurent un discours, mais que ni l'UNAM, où Lorca avait dirigé le théâtre populaire universitaire, ni le journal El Universal, où il tenait la chronique théâtrale, n'avaient envoyé de fleurs. En Espagne, l'hommage ne fut pas plus retentissant, en dehors d'un article d'Assorín qui évoqua dans le journal ABC sa première rencontre en 1921 avec le poète et ses amis Salvador Dalí et Luis Buñuel à la résidence pour étudiants de Madrid. Dans un article envoyé depuis Paris à la revue La Cultura en México, Juan Goytisolo, dit toujours le texte de Pacheco, protestera quant à lui contre l'ignominieux oubli dans lequel était tombé Lorca, dans et en dehors de l'Espagne, tandis que Camilo José Cela, dans Papeles et son Armadans, publiera à la fin de l'année des poèmes de Vicente Aleixandre et Luis Rosales dédiés à Lorca. La dimension ironique, sarcastique, de cette recréation biographique totalement inventé, ira s'accentuant tout au long de l'essai, dans lequel on va évoquer l'apothéose mexicaine et la tragédie lorquienne, ce sont les mots qu'emploie Pacheco, et donc où sont évoquées les étapes heureuses et malheureuses de cette supposée biographie imaginaire. En réalité, cette biographie fictionnelle de Lorca, je crois, tente, tout en la dédramatisant par de nombreux traits d'humour et d'ironie, d'imaginer la vie de Lorca à partir de ce qui fut un authentique rendez-vous manqué avec le Mexique, où Lorca avait failli se rendre, comme je le disais tout à l'heure. Un des grands auteurs qui a travaillé ces œuvres, monsieur Savi, qui est Ian Gibson. Ian Gibson rappelle en effet, dans un récent article, comment Lorca avait l'intention de se rendre avec un jeune acteur au Mexique, où Margarita Argüello faisait triompher son théâtre et où la presse annonçait déjà sa venue. Il y était également invité avec insistance par ses amis écrivains mexicains Salvador Novo, Alfonso Reyes, mais il renonça au dernier moment à partir pour célébrer, pour rester avec sa famille en Espagne. Décision fatale, car elle aurait pu changer le cours de son destin, comme le soulignent les nombreux articles qui ont depuis publié et analysé ce qu'il considérait comme sa dernière lettre à son ami. Donc vous voyez, c'est un extrait. Donc à l'opposé de ce contexte hautement dramatique, hautement tragique, Pacheco cultive dans son texte l'intertextualité et l'ironie dans une entreprise de démythification. Par sa référence, comme je le disais tout à l'heure, à l'article de Montsevais sur l'exception de Lorca au Mexique, puis par des clins d'œil au texte écrit sur Lorca. Le paragraphe, il y a un paragraphe qui s'appelle, non pas « El crimen fue en Granada », mais « El crimen fue en Ibiza ». Par exemple, qui est une référence carnavalesque donc aux autres hommages rendus à Lorca, et où il ironise sur les relations entre Lorca et Alberti, et sur leurs images respectives. La recuperación de Federico García Lorca ha sido lenta pero definitiva. Su obra y su figura quedaron durante mucho tiempo opacadas por el resplandor de Rafael Alberti, el joven poeta que los fascistas asesinaron en Ibiza, al lado de su esposa María Teresa de León, por órdenes directas del general Queipoderiano. Alberti se convirtió en un símbolo de la resistencia antifascista y de la genialidad poética cercenada por la barbarie cuando sus mejores frutos estaban aún por delante. On voit qu'on inverse totalement le mythe, c'est en même temps Alberti qui devient la référence, le poète martyr, alors qu'on sait, j'y reviens tout à l'heure, qu'il y a pu y avoir quelques dissensions entre eux. Bon. Traducciones a todos los idiomas de Marinero en Tierra, Sobre los Ángeles, Sermones y Moradas y los demás libros y obras teatrales de mártir no dejaron espacio para ningún otro poeta español. Biografías, estudios críticos, investigaciones sobre lo que realmente sucedió en Ibiza en los primeros días del cuartelazo franquista no han hecho sino multiplicarse en estos 63 años. De lo que Lorca fue como persona, habla el hecho de que jamás pronunció una palabra en contra de su amigo Alberti, ni se quejó por verse relegado. Un ouvrage sur les relations entre les deux poètes, intitulé Alberti y Lorca, la difficile compagnie, retrace leurs tensions entre 1924 et 1936, et on y apprend. Après, il faudra bien sûr que des recherches le confirment, que leur bruit momentané, serait né au moment où l'épouse d'Alberti, Maria Teresa de León, aurait voulu faire adhérer Lorca au communisme, ce à quoi il serait toujours refusé, n'en devant entrer dans aucune démarche, aucun parti idéologique. Et donc, je dirais pour terminer, le texte prend ainsi le contre-pied de la biographie officielle. Bon, là, j'aurais dû le montrer. Bon. Voyez dans le dernier paragraphe, prend le contre-pied dans cette biographie officielle, je dirais, pour mieux secouer le mythe qui s'était créé autour de Lorca, dans un monde à l'envers où Alberti devient le poète martyr, tandis que Lorca mourra oublié et dans la misère, et dans la marginalité, c'est ce qui est dit dans le dernier paragraphe. Cuando Churubusco le cerró las puertas, Lorca sobrevivió gracias al poco dinero que le enviaban desde España a su familia y a sus notas de teatro en un Universal gráfico. Ninguna obra suya volvió a representarse ni publicó libro alguno tras el fracaso de poeta en Nueva York. En secreto, siguió escribiendo los poemas que, editados por Miguel García Posada, de 1983 a 1992, forman ahora parte esencial de lo que nos dejó la gran generación poética de 1927. Al fin, en su centenario, se ha hecho justicia a Federico García Lorca. Cette biographie imaginaire rapproche Pacheco de Borges. Et la rapproche à partir parce qu'ils ont tous les deux une admiration pour un écrivain, pardon que je vais encore citer, qui est Marcel Schwab, écrivain français, nantaise, enfin du Cocorico, n'est-ce pas, dont le père a été le directeur du phare de la Loire, ici, grand spécialiste de Villon, et Borges dit quelque part que pratiquement sa vocation d'écrivain, il la doit bon, à Schwab, s'il n'y avait pas de Schwab. Et je me souviens d'avoir été invité à un colloque à Monterrey, en hommage à Pacheco, et dans lequel Pacheco, j'ai échangé un peu avec lui, et puis il disait qu'au Mexique, on connaît par cœur les textes de Schwab, les étudiants interprètent Schwab. Ici, c'est un illustre inconnu. Il y a peut-être une demi-rue Schwab à Nantes, tout le monde se... personne ne sait. Et que fait Schwab? Il écrit en 1896 deux textes fondamentaux qui vont beaucoup plaire à Borges, parce que Borges déteste le roman historique. Et l'un s'appelle La croisade des enfants, je ne vais pas m'y parler parce que je n'ai pas le temps, et l'autre s'appelle Les vies imaginaires, dans lequel Schwab pense que les historiens se sont trompés, qu'avec les vies des gens, on peut faire des poèmes en prose. Quoi. C'est pas... Est-ce que c'est ce qu'essaye de faire Pacheco pour mieux... Voici ce que dit Schwab. Les biographes ont malheureusement cru d'ordinaire qu'ils étaient historiens, et ils nous ont privés ainsi de portraits admirables. Ils ont supposé que seule la vie des grands hommes, c'est dans le prologue à Vies imaginaires, seule la vie des grands hommes pouvait nous intéresser. L'art est étranger à ces considérations. L'art du biographe serait de donner autant de prix à la vie d'un pauvre acteur qu'à la vie de Shakespeare. Si l'on tentait l'art où excellèrent Boswell et Aubrey, il ne faudrait sans doute point décrire minutieusement le plus grand homme de son temps ou noter la caractéristique des plus célèbres dans le passé, mais raconter avec le même souci les existences uniques des hommes, qu'ils étaient des divins, médiocres ou criminels. C'est pourquoi Borges, en 1935, écrivera « Histoire universelle de l'infamie », dans lequel il va parler de trafiquants d'esclaves, de Billy the Kid et autres bandoleros, pistoleros, n'est-ce pas, qui n'ont pas droit aux castellations des académies. Bon. On voit qu'on est dans une démarche totalement nouvelle, que l'Amérique latine là propose à travers ses approches un renouvellement des images qui est loin d'être irrespectueux si on sait comment le lire. Je terminerai donc en disant que Lorca a joué évidemment un rôle central en Amérique latine par la manière dont, pour Carlos Monsiváis, il a par exemple anticipé et facilité la réception d'autres œuvres, suscité de multiples créations, inspirant par exemple des artistes et peintres ou encore des musiciens comme Silvestre Revueltas, qui est un grand musicien mexicain, qu'on ne cite pas assez, qui a dédié une de ses œuvres à sa mémoire. Ou là, on a cité hier au concert de Marie, on voit que la dimension musicienne aussi de Lorca est envisagée. Bref, Revueltas, et je reviendrai à la guerre civile, qui a dédié une de ses œuvres à sa mémoire, Homenaje a Federico García Lorca, a été membre de la Ligue des écrivains et artistes révolutionnaires. Il a rejoint l'Espagne en guerre et il a participé au deuxième congrès international d'écrivains pour la défense de la culture en Espagne, aux côtés d'Octavio Paz, Elena Garro, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Nicolas Guillén. Bon, il donnera plusieurs concerts en Espagne aussi à ce moment-là. Bref, je dirais en conclusion que lorsque le poids du mythe est trop fort, la vie et l'œuvre de Lorca peuvent-elles être l'objet de réécriture à la manière de biographies imaginaires? Et c'est une interrogation, hein, voilà. Et je terminerai en revenant à l'Uruguay. Dans un article dédié à Lorca à Montevideo, Andrew Anderson rappelait cette réflexion de Lorca devant le paysage du cône sud, et à quel point Lorca se sentait latino-américain. Je cite. Pero allá en la Argentina, la planicie, lo que no podrás nunca dominar, lo que te dominará siempre por el terror de la extensión, de lo verde sin límite. Lorca dit, esto es Asturias. Non, c'est les Asturies. Esto es mi patria, dice al fin Federico. Oye, me siento compatriota. Estoy en mi patria. Para mí esto no es viajar. Te juro que en Cataluña siento más lejanía de mi solar que aquí. No, puede ser que ustedes me consideren extranjero. Ah, ¿cuándo se considera a alguien como extranjero, n'est-ce pas? ustedes me consideren como extranjero, pero yo no puedo, no siento mi calidad de, no siento mi calidad de viajero recién llegado a esta tierra que ya es mía. Faudrait s'interroger sur ce lien très profond qu'a représenté Lorca au sein de l'Amérique latine, et je dirais qu'on a presque une réponse au poème de Neruda. Pour paraphraser Neruda, il y a ici une profonde sensation d'Espagne au cœur, mais au cœur de l'Amérique. Je vous remercie.
Alors Jean-Marie,
dis-moi.
Je peux vous dire une chose?
Oui.
En Argentine, Lorca est encore vivant.
Bien sûr.
Quand on prend un taxi, qu'on parle, que nous sommes, toutes les années, il y a un congrès de théâtre en août. Et normalement, j'accompagne mes élèves doctorants pour faire des présentations, des communications et tout ça. Et chaque fois qu'on arrive, qu'on prend un taxi, qu'on parle, qu'on vient parler de Lorca, les chauffeurs de taxi connaissent Lorca. Et ça, c'est une chose très, très forte en Argentine. Il y a les cafés Tortoni, où Lorca fréquentait.
Ah, oui.
Dans la table où il restait assise pour boire son café, il y a un tableau original de Lorca qu'il a laissé au café. Il y a le Théâtre Avenida, et en le Théâtre Avenida, il y a les affiches de la baraque et aussi les mots que Lorca parlait sur le théâtre. Tout est là. Ils ont gardé une mémoire fantastique. Dans le Café Tortoni, il y a une salle réservée à un groupe de poètes qui s'appelle Les Poètes pour la Paix, duquel je participe. Et on écrit et on se réunit tous les mercredis. Et la dernière fois que je suis allée, ils ont invité un acteur de théâtre à venir jouer pour moi La Casada Infiel.
Wow.
Et c'est vraiment, ils aiment Lorca encore aujourd'hui. Lorca est encore les grands poètes qu'ils admirent de l'Espagne. Ça, c'est une chose que j'aime, et j'aime être là, j'aime participer à ça. Et quand j'arrive dans les congrès avec mes élèves, ils disent toujours « Ah, les Lorcanas llegaron
».
Bon, on va passer alors